RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
Bonjour à tous, Motors en direct jusqu'à 14h. Salut Jean Lecroix.
Oui, salut Louis Amar, bonjour à tous.
À la une, la F1 évidemment, le titre se jouera peut-être, sûrement ce soir aux États-Unis. Lewis Hamilton s'élancera en pole position. On va revenir en détail sur les qualifs du Grand Prix d'Austin. Au programme également la moto, cette fois c'est fait. Marquez est champion du monde, l'ancien pilote Jean-Claude Ogrel sera avec nous dans Radio Paddock. C'est parti pour Motors, bienvenue à tous. Adrien Tambay est avec nous dans Dream Team RMC Sport. Salut Adrien.
Salut Louis, salut à tous.
Prêt pour le grand soir?
Ouais, pardon?
Prêt pour le grand soir?
Ouais, ouais, bien sûr.
Lui aussi, il semble prêt, de plus en plus prêt en tout cas, d'un cinquième titre de champion du monde.
RMC Motors, le tour de chauffe.
Lewis Hamilton au seuil d'un nouveau sacre. Jean-Luc, hier soir encore, le Britannique a fait le boulot. Il partira tout à l'heure en pole position. On a l'impression que l'issue de chaque séance de qualification est inexorable.
Et oui, écoute, il est chez lui hein, avec 6 victoires, je viens de le rappeler dans les grandes gueules, 6 victoires évidemment sur ce tracé. C'était pas de beaucoup parce que Vettel n'est qu'à 61 millième, mais on sait qu'il est frappé par une pénalité, malheureusement pour avoir fait une petite bêtise, pas avoir assez ralenti sous drapeau rouge sous la pluie vendredi, donc ça lui coûte quand même 3 places sur la grille à Vettel. Et puis Raikkonen avec l'autre Ferrari n'est pas loin non plus à 70 millième, mais voilà, au moment et au moment dit et quand il le faut, Hamilton sort le grand en jeu une nouvelle fois, donc il décroche une nouvelle pole, la 81e de sa carrière, la 9e de la saison. Bah, comme il dit, c'est 50% du boulot de fait.
Adrien, encore le coup parfait pour Lewis Hamilton hier soir, c'était un peu avant minuit.
Bah, c'était important pour Lewis Hamilton de devancer les Ferrari avec la pénalité, comme Jean-Luc l'a dit, de Sébastien Vettel. Maintenant, il va falloir vérifier ça en course. Hein. On sait que Mercedes, il y a eu très peu de roulage sur le sec ce week-end jusqu'à la qualif. Et Mercedes s'est appliqué à vraiment régler la voiture sur des longs relais, au contraire de Ferrari. Mais on sait que Ferrari a apporté un nouveau fond plat en Amérique et on a l'impression peut-être qu'il y a une petite réaction là, parce que 70 millièmes pour Raikkonen, 61 millièmes pour Sébastien Vettel, c'est vraiment proche de Lewis Hamilton.
Raikkonen qui a été proche en plus à un moment de la séance de qualification, Adrien, de prendre la pole.
Ouais, Kimi Raikkonen qui a été très, très performant, surtout dans le premier secteur, le secteur où Ferrari arrive à devancer Mercedes. Ensuite, sur le reste du tour, c'est un peu plus compliqué, mais effectivement, là, on parle de millième et ça s'est joué à rien et ça démontre encore une fois que Lewis Hamilton maîtrise son sujet quand on voit qu'il a mis 3 dixièmes et demi à son coéquipier.
On va s'arrêter en détail sur l'ensemble des performances, mais rapidement, voilà le top 5 de ce Grand Prix des États-Unis, en tout cas de la grille de départ. Hamilton, Raikkonen, Bottas, Ricciardo et donc Vettel, on l'a dit, pénalisé de 3 places. Les scénarii pour que Lewis Hamilton soit champion du monde, c'est assez simple. Hein. S'il emporte le Grand Prix et si Vettel termine 3e, en clair, s'il marque 8 points de plus que l'Allemand, il sera champion du monde. On aura tout le temps de débattre de la place qu'Hamilton prendra dans l'histoire de la F1 du sport automobile. Avant cela, Jean-Luc, il y a 7 dernières étapes à valider. C'est comme un ticket à composter finalement, pas beaucoup plus.
Ah, quand même. Ouais. Je comprends. Oui, je comprends ton expression. Elle est logique. On va pas maintenir le suspense pour le plaisir. Néanmoins, d'abord, c'est un sport mécanique. Et qui dit mécanique, aussi, on sait très bien, on est en fin de saison. On est à 4 grands prix du terme de cette saison. Malgré tout, les moteurs Mercedes et l'ensemble des organes mécaniques ont été soumis à très dure épreuve. Ça peut le lâcher à un moment. Ça n'a pas été le cas jusque là, mais ça peut arriver. On le souhaite pas, évidemment. Ça, c'est une première composante. La deuxième, et nous l'avons dit, je pense que Raikkonen, qui va quitter Ferrari donc à la fin de la saison, il l'avait appris à Monza. On a vu à quel point, d'ailleurs, à Monza, ils étaient montrés agressifs, dans le bon sens du terme. Si Raikkonen prenait un meilleur départ qu'Hamilton, sait-on jamais, il sera du mauvais côté de la piste, eh bien, ça peut tout changer dans le déroulement. Alors, il fera pas ça pour aider Vettel, on l'a bien compris, il n'a pas aidé à Monza, il va pas l'aider plus là, mais sortir de chez Ferrari avec une victoire, et pourquoi pas celle-là, puisqu'il partira de la première ligne, je dis que c'est pas seulement une formalité.
Lewis Hamilton, lui, est d'accord avec toi, Jean-Luc, ça ne te surprendra pas. Seulement la moitié du boulot est faite selon le Britannique. On l'écoute.
Non, je pense que la qualification représente la moitié du travail. C'est une partie dans le week-end, mais les points sont en jeu lors de la course. Cela va être une longue course et il peut se passer beaucoup de choses. On ne part pas de zéro, c'est sûr que la pole position est la meilleure place pour le départ.
Lewis Hamilton au micro de Lucas Vinois, qu'on salue et que vous retrouverez ce soir, évidemment, au commentaire du Grand Prix des États-Unis à 20h10. Adrien, tu es d'accord avec les préventions de Jean-Luc et de Lewis Hamilton? Il faut toujours se méfier. Et même si cette victoire paraît facile à récolter, il faut le faire.
Non, je dirais qu'elle est peut-être un peu plus difficile qu'ailleurs ou que sur les circuits précédents, tout simplement parce qu'il y a eu il y a cette inconnue. On n'a pas fait beaucoup de roulage sur le sec depuis le début du week-end et on ne sait pas vraiment comment les pneus vont se dégrader pendant la course. En plus de ça, les écarts, on le disait et on le redit, sont très faibles entre la Mercedes et la Ferrari. Kimi Raikkonen n'a rien à perdre. On sait que le premier virage est un entonnoir, il est très large. On peut aller tenter une attaque. Même si Lewis Hamilton prend un bon départ, Kimi Raikkonen pourra tenter de dépasser l'anglais. Donc non, en plus de ça, il y a pas vraiment de pression pour Lewis Hamilton, mais il a envie de clôturer son championnat aux États-Unis, qui est un peu son deuxième pays. Donc voilà, c'est pas tout clair pour Lewis Hamilton. Donc.
Alors justement, Jean-Luc l'a rappelé tout à l'heure, Lewis Hamilton, il a d'excellents résultats aux États-Unis. Il y a même déjà été titré, c'était en 2015 aux dépens de Nico Rosberg. Il aime beaucoup venir aux États-Unis aussi dans sa vie privée. Est-ce que ce sont des éléments qui comptent, Adrien ? Est-ce qu'on peut réussir à faire sienne une piste comme ça et s'y retrouver quasiment imbattable ?
Ben, je crois que oui, c'est souvent les caractéristiques d'un circuit qui nous conviennent plus ou moins. Et là, en l'occurrence, c'est un circuit rapide avec des enchaînements, et pas mal de dénivelé que Lewis Hamilton apprécie. Tout particulièrement, c'est aussi un circuit technique dans le cœur et sur la fin de ce tracé. Il est compliqué en fait ce circuit et je pense qu'il démontre tout le talent de Lewis Hamilton. Il donne la part belle aux pilotes tout simplement et c'est pour ça que Lewis Hamilton est performant là-bas.
C'est vrai Jean-Luc que c'est un circuit particulier dans la mesure où c'est un des nouveaux tracés de la Formule 1. Ça fait pas de si nombreuses années que ça qu'il est au calendrier, mais pourtant il a été conçu un peu comme un circuit à l'ancienne. C'est ça qu'aiment les pilotes.
C'est exactement ça, Louis, puisque Herman Tilke, là, on peut dire qu'il a réussi. Bah, pour moi, c'est le plus beau circuit, quasiment, qu'il ait créé. Et il en a créé beaucoup.
Complètement d'accord.
Tu le sais. Parce que ça me fait plaisir, les pilotes l'adorent, déjà parce qu'il s'est inspiré des circuits existants. Alors on commence par une montée absolument incroyable. Alors c'est vrai que les images de télé, tout le monde les a vues, mais la télé ça écrase énormément. C'est vraiment un mur qui se trouve en face, et on peut comparer avec le raidillon de l'eau rouge, tiens par exemple, c'est tout à fait comparable. C'est vraiment un mur qui est face aux pilotes, d'autant qu'ils sont quasiment assis par terre dans leur monoplace. Donc ils ne voient pas véritablement ce freinage, même s'ils le connaissent, ou plutôt ce point de corde à gauche. C'est très délicat quand on arrive à plus de 300 km/h. Ensuite, je pense que Adrien, c'est le morceau de bravoure, c'est l'enchaînement qui suit, qui ressemble à Cops, Magot,
Beckett.
Et tous les virages de Beckett, tout à fait, de Silverstone. Et d'ailleurs, il s'en est inspiré, Herman Tilke. Donc c'est un enchaînement aux alentours de 250 km/h, avec des changements de direction terribles. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, ça n'en finit plus. Il y en a 9 qui se succèdent, et là, les pilotes prennent un pied absolument formidable. Donc oui, c'est un circuit de pilotage et ça n'est pas étonnant. Hamilton a du respect justement pour l'histoire de la Formule 1. Ça n'est pas étonnant qu'il soit à son aise là-dessus et qu'il l'ait remporté 6 fois.
Hamilton en pole position donc, et juste derrière lui, ça ne sera pas Sébastien Vettel qui a pourtant signé hier soir le deuxième temps des qualifications. Mais vous l'avez rappelé messieurs, il a été pénalisé pour une erreur toute bête en essai libre. Il n'a pas assez ralenti son régime de drapeau rouge. Est-ce que finalement vous pensez pas que le week-end auquel on vient d'assister, peut-être même la séance de qualification d'hier, c'est en fait le résumé de la saison, c'est-à-dire deux voitures qui sont assez proches, mais un pilote qui commet des erreurs et un pilote qui n'en commet pas.
Ouais, je crois que t'as tout dit, Louis. C'est un peu représentatif, et malgré le fait de cette pénalité qui n'est pas vraiment à 100% méritée, parce que c'est un règlement de ce point de vue-là qui est un peu complexe à comprendre et qui dans ces conditions-là, parce que faut rappeler que la pénalité de Sébastien Vettel, elle a été, il l'a enregistrée sous la pluie dans des conditions de drapeau rouge. Il a pas ralenti assez, mais il y a une histoire de pourcentage. On doit ralentir plus d'un certain pourcentage par rapport à la vitesse, mais le problème c'est que la vitesse était déjà pas très élevée sous la pluie, donc c'est des conditions un peu particulières. Malheureusement il y a un règlement, il faut le respecter. C'est tombé sur Sébastien Vettel, mais tu as raison, c'est tombé sur lui, c'est pas tombé sur un autre pilote.
Voilà, ça tombe toujours sur le même.
Voilà, c'est un peu l'ashkumun pour Sébastien Vettel et il la provoque un peu. Voilà.
Tu es d'accord Jean-Luc, une ashkumun provoquée?
Bah écoute, moi je pense qu'il se prend les pieds dans le tapis, tu sais, on l'a dit clairement, enfin je l'ai dit, allez j'assume, et il ne mérite pas le titre de champion du monde Vettel cette année, je suis désolé, au moins 5 reprises, lui a commis des erreurs personnelles, alors son équipe en a fait 2 également, ça fait beaucoup hein, au final, surtout face à un Hamilton qui lui n'en commet pas. Alors Adrien a raison, c'est vrai que maintenant le règlement est de plus en plus complexe, mais quand même, il est 4 fois champion du monde, Vettel. Il est en bataille pour le titre de champion du monde, il sait qu'il n'a droit à aucune erreur, et il en commet. C'est absolument inadmissible à ce niveau de compétition. Franchement, j'ai toujours du mal à taper sur la tête d'un pilote, surtout avec autant de talent, mais là, il mérite pas de gagner, alors que Hamilton le mérite, voilà, c'est tout. Alors, maintenant, quand il est dans de bonnes conditions, il l'a démontré, terminé à 61 millièmes seulement avec sa Ferrari d'Hamilton, c'est une très belle performance, mais de toute façon, il était deuxième. Hamilton était devant, il lui en manque toujours un petit peu.
Et même s'il a réussi une plutôt belle séance de qualification, il n'a pas caché hier sa frustration au micro de Lucas Vignon.
C'est toujours important, c'est même prépondérant d'être l'homme le plus rapide. Nous étions proches, mais je n'ai pas réussi à accrocher la pole. Bien sûr, j'ai réalisé un très bon tour, j'étais heureux lorsque j'ai franchi la ligne, mais ce n'était pas suffisant.
Cinquième, donc, Sébastien Vettel tout à l'heure sur la grille de départ du Grand Prix des États-Unis. Les ultimes espoirs de la Scuderia sont donc entre les mains de Kimi Raikkonen, qui aura la tâche de permettre à Vettel de remonter. Ça va être quoi, Adri, la stratégie de Kimi Raikkonen?
Kimi Raikkonen, il a rien à perdre, tout simplement. Ça va être d'aller dépasser Lewis Hamilton et comme le disait Jean-Luc tout à l'heure, aller gagner ce Grand Prix pour Ferrari. Voilà, la fin de sa carrière avec Ferrari avant d'aller chez Sauber, un retour aux sources l'année prochaine. C'est un circuit qui convient aussi bien à Kimi Raikkonen et le premier virage, voilà, lors du départ, c'est une belle occasion, une belle opportunité pour le pilote finlandais d'aller attaquer Lewis Hamilton. Après, il y a une longue ligne droite, il y a du DRS. On ne sait pas comment les pneus vont se dégrader, ou en tout cas, il y a une petite incertitude. Donc, tout est encore ouvert, je pense, dans cette course.
Le plan parfait pour Kimi Raikkonen, Jean-Luc, c'est quoi? C'est de s'emparer de la première place et d'essayer de permettre à Vettel de revenir progressivement juste derrière lui.
Alors oui, rappelons justement, Adrien vient d'évoquer les pneus et il a bien raison. Rappelons que en Q2, c'est toujours ce point du règlement qui est tellement compliqué à expliquer, mais bon, dans Motors, on peut le faire, on a affaire à des spécialistes. Eh bien, du côté d'Hamilton, et c'est le cas également de Bottas et de Ricciardo, on s'est qualifié en Q2 avec des super soft. Donc ça veut dire que Raikkonen, lui, a des ultra soft, les pneumatiques les plus tendres. Ça peut jouer au départ, effectivement, dans les conditions d'adhérence limite, avec des pneumatiques pas tout à fait en température. Raikkonen, il aura un petit avantage au niveau de la motricité, à lui de l'exploiter, puis je pense qu'il va tenter un freinage de folie, c'est le cas de le dire. À moto, on dirait un freinage de trappeur, d'où qu'il arrive. Donc, à mon avis, Hamilton, il va bien falloir qu'il regarde autour de lui, parce que la voiture rouge frappée du numéro 7, elle va être très agressive.
Et oui, tu as complètement raison, Jean-Luc, et en plus de ça, Lewis Hamilton, si je ne m'abuse, s'est qualifié avec un train de pneumatique super soft, avec lequel il a fait plus de tours que les autres ensuite, donc
tout à fait.
Peut-être un peu plus de... Voilà, deux runs sur le même train de pneus, donc voilà, le delta entre le train de pneus de Kimi Raikkonen, qui plus est plus soft que les plus mou que Lewis Hamilton et donc plus performant, sera un bel avantage au niveau du départ et même du premier freinage, de la mise en température des pneus.
Le problème, c'est que Kimi Raikkonen aura beau déployer tous les efforts du monde pour permettre à son équipe de rester un peu dans la course au titre, il faudra que Sébastien Vettel fasse le boulot et revienne au contact de Lewis Hamilton et pourquoi pas de Raikkonen. Bottas, lui, sera troisième sur la grille et derrière, on redescend et on trouve Daniel Ricciardo, le pilote Red Bull, qui est sans doute à sa place derrière les Mercedes et la Ferrari, mais qui, Jean-Luc, sur un circuit où on peut dépasser, peut être un homme important de cette course pour nous offrir un beau Grand Prix.
Ah, il faut toujours faire attention à Daniel Ricciardo en course. Vraiment, c'est l'un des plus solides finisseurs, j'allais dire, mais pas seulement. Il est toujours là, il ne lâche rien. Autant on peut, pas lui reprocher, mais constater un léger manque de pointe de vitesse, on va dire, pendant les qualifs, même si là... Il a fait mieux que Verstappen, mais il y a une bonne raison, c'est que Verstappen n'a pas roulé à cause d'un problème technique. On y reviendra certainement.
Tout à fait.
Mais Daniel Ricciardo, oui, en course, il n'aura pas son pareil. Je pense que, en plus, lui aussi, on le sait bien, il quitterait le boule. Tiens, par parenthèse, mais vous l'avez appris comme moi j'ai été, littéralement écœuré de voir que Christian Horner, dans son immense générosité, a interdit à Ricciardo de rouler avec Renault après la fin de la saison à Abu Dhabi. C'est lamentable, carrément. Ça, c'est de la mesquinerie. Quand, avec Red Bull, on a quand même remporté 4 4 titres de champion du monde avec Vettel, hein, on s'en rappelle, et ben on prive pas Renault, ça c'est de la messe.
Pour le dire clairement, en fait, il y a des tests d'après-saison qui ont lieu à Abu Dhabi à l'issue du dernier Grand Prix, donc début décembre, et Ricardo est donc encore à ce moment-là sous contrat avec Red Bull, qui a refusé, qui s'exerce déjà avec son écurie pour l'année prochaine. Ouais. Adrien, toi tu comprends le principe de l'écurie de dire bah non, on lâche quand on lâche, ou tu trouves que c'est extrêmement inélégant?
Bah ça montre c'est pas forcément très élégant effectivement, mais ça montre que
c'est pas très surprenant, tu me diras, de la part d'Horner.
Mais que le torchon brûle un peu entre Red Bull et Renault, et puis que la séparation se fait pas forcément complètement à l'amiable, et que au final on n'est pas obligé de libérer Ricardo, et on le fait pas, débrouillez-vous, et nous on veut gagner l'année prochaine, et on utilise tous les outils qu'on a, y compris les moins élégants, voilà.
Mais il en faudra plus pour effacer son sourire, son éternel sourire à Daniel Ricciardo, sourire que vous entendez dans sa voix au micro de Luca Vinoy.
Nous étions vraiment seuls, mais contents de s'élancer quatrième. Merci à Sébastien d'ailleurs, ou merci au commissaire de lui avoir donné une pénalité. Je plaisante bien sûr. Cela fait vraiment longtemps que nous n'avions pas été aussi bien placés sur la grille en deuxième ligne. Sur un tour, nous manquions un peu de rythme, c'est vrai, mais j'espère que lors de la course, nous serons un peu plus proches pour pouvoir monter sur le podium. C'est l'objectif, mais les Ferrari étaient bien plus rapides que ce que nous pensions aujourd'hui. Nous verrons ce qu'il se passe pendant la course.
Quatrième place donc pour Daniel Ricciardo, qui nous a habitués à de belles remontées, et aux États-Unis c'est possible, donc Daniel Ricciardo sera un homme à suivre de la course. Au même titre d'ailleurs que son équipier Max Verstappen, qui a connu, Jean-Luc, une mésaventure hier en qualification, mais avec lequel il faut, mine de rien, toujours compter.
Oui, alors Verstappen, en fait, on dit que sa monoplace, enfin la transmission, a cassé sur les fameuses bananes qui se trouvent à l'extérieur du vibreur dans le dernier virage. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi ? Parce qu'il avait très très durement tapé dans le même tour, dans un trou au sommet du circuit. On l'a vu vraiment. Il est passé dans la terre, on peut dire. Et là, il y a eu un choc épouvantable. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a admis dans l'un des communiqués que j'ai vu passer. C'est bien avant qu'il a endommagé sa transmission qui a fini par casser sur les fameuses bananes, mais bon, il a commis une erreur, Verstappen, pour être clair, il l'a payé au maximum, puisqu'il n'a pas pu rouler par la suite, et il partira seulement 15e, alors je sais bien qu'il va faire une belle remontée, mais là, pour revenir sur le podium, ça va être un sacré parti de plaisir. Là.
13e place, finalement, pour Max Verstappen, avec le jeu des pénalités, notamment des Toro Rosso.
C'est vrai, il y a Gasly Hartley.
Voilà, donc 13e place tout à l'heure pour Max Verstappen. Luca Vinoy lui a demandé hier, à l'issue de la qualification, mais Max, est-ce que tu as fait quelque chose de différent des autres pour te retrouver dans cette situation? Voici la réponse du Néerlandais.
Non, j'ai fait exactement la même chose que tous les autres pilotes. À la sortie d'un virage, j'ai touché les mini dodanes parce que monter un petit peu dessus est la façon d'être le plus rapide. Mais ça a cassé la suspension, c'est un peu dur et c'est dommage que ça nous arrive à nous. Mais ça nous permettra d'avoir une course plus amusante.
Voilà, il fait comme tous les autres, mais lui, ça passe pas, Adric.
Il paye un peu le défaut de ses qualités quelque part. Max Verstappen, c'est Max Attack. Et voilà, tout simplement, un peu large. On sait que tous les pilotes sont à la limite, mais il y a des endroits à éviter sur un circuit comme celui-ci. Designé par Herman Tilke, donc avec pas mal de dégagement, mais aussi du coup pas mal d'espace à utiliser pour les pilotes pour maximiser la performance, et là il est allé un peu loin, en tout cas au mauvais endroit, et d'ailleurs Daniel Ricciardo s'amusait à le souligner, lui il avait vu cet endroit, son ingénieur l'avait prévenu, et il a soigneusement évité de sortir large dans le virage 15. Voilà.
13e place donc pour Max Verstappen. Motor se poursuit à 13h45, on revient sur le titre de Marc Marquez en MotoGP ce matin, il a remporté la course au Japon et lui aussi une 5e étoile. Et puis dans quelques instants, on revient sur les performances de nos Français ce week-end en F1. A tout de suite sur RMC.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean-Luc Roy.
Avec Jean-Luc Roy et Adrien Tambay, Motors en direct se poursuit jusqu'à 14h. L'événement ce week-end, c'est le Grand Prix des États-Unis. 20h10, ce soir, en direct sur RMC, on a évoqué les chances de titre de Lewis Hamilton. Mais bien placé sur la grille, il y aura aussi nos Français.
RMC Motors, le French's Corner.
Et le premier d'entre eux, Jean-Luc, c'est Esteban Ocon, 6e, beau 6e, et très largement devant son équipier Sergio Pérez.
Et oui, Louis, écoute, on rappelle que c'est quand même dans un contexte psychologique pour le moins difficile qu'Esteban Ocon se bat, mais voilà, le talent des pilotes, et je sais que Adrien ne me contredira pas, c'est que dès qu'on referme la visière, il n'y a plus rien d'autre qui compte que la performance, et là Esteban, il a fait parler la poudre, il a largement devancé son équipier Pérez qui n'est que 10e, donc c'est absolument génial, une 34-145 contre une 34-594, pardon, c'est quand même énorme. énorme, hein, la différence. C'est rare d'ailleurs entre ces deux pilotes. Donc c'est génial, la qualif d'Esteban Ocon. Alors j'aimerais pouvoir dire, ah ben grâce à ça, il va trouver un baquet pour 2019. Mais on sait que ça n'a rien à voir. Et on espère que Williams va se décider rapidement, même si Claire Williams, en conférence de presse, a dit qu'elle allait prendre son temps et qu'elle hésitait encore et qu'elle allait voir qui allait le mettre aux côtés de George Russell. Mais en tout cas, quel bel exploit d'Esteban Ocon en qualif à Austin.
On va y revenir dans un instant sur sa situation qui est à la fois sportive et extra-sportive, mais qui surtout est en suspens. Avant cela, on va écouter justement la réaction d'Esteban Ocon hier au micro de Lucas Vinoy à l'issue de la séance de la qualification, une sixième place qui lui aussi l'a ravi.
Super résultat, vraiment content d'être là en sixième place. C'est comme l'année dernière, donc non, on est super content. Là, ouais, c'était hyper serré toute la séance. Pour faire la différence, c'était compliqué. Et le dernier tour, j'ai réussi à en faire un presque parfait. Donc quand j'ai passé la ligne, j'étais content de moi. Et puis après, je regarde, bon, je suis resté là et c'était tellement serré que rien faisait la différence. Et puis on a réussi à la faire, donc c'est top.
Et peut-être un coup à jouer tout à l'heure pour Esteban, Adrien.
Oui, effectivement, avec le micro c'est mieux. Esteban est dans la meilleure des positions. Quelque part, il a vraiment fait le boulot. Surtout que Sergio Pérez avait été dominant sous la pluie et depuis le début du week-end en essai libre. Donc là, au moment où ça comptait, il a fait le job avec un Pérez qui a sûrement fait une erreur dans son tour. C'est voilà, dans le contexte difficile d'Esteban aujourd'hui, c'est parfait ce qu'il réalise et on sait que la Force India est forte en course, donc voilà, il y a un Daniel Ricciardo qui est pas très très loin devant, même s'il y a quand même un delta en termes de performance qui va être difficile à combler. Une course intéressante pour Esteban ce soir.
Alors ce contexte, on en parle depuis longtemps sur RMC, on vous le rappelle, Esteban Ocon n'a toujours pas de baquet pour la saison prochaine, les portes se sont refermées une à une, mais celle de Williams a fini peut-être en effet, Jean-Luc, par s'entrouvrir, pardon. Tu citais tout à l'heure Claire Williams qui, c'est vrai, a eu cette semaine en conférence de presse des déclarations qu'elle n'avait pas encore eues depuis le début de cette affaire.
Oui, alors il faut s'accrocher à tous les espoirs, même les plus minces, et ça doit être vraiment terrible pour Esteban de rester comme ça, on va dire aussi affûté, aussi pointu, mais c'est peut-être encore, s'il en avait besoin, une motivation supplémentaire. Alors on sait que le deuxième baquet, bah, on parle beaucoup de Robert Kubica, qui est d'ailleurs présent évidemment lui aussi dans le stand, avec le basque un peu, hein, il faut bien reconnaître, lui aussi il est très tendu. On sait que la décision ne se fera pas au talent une nouvelle fois, mais probablement aux moyens financiers à la porte. Il y a évidemment Sergei Sirotkin qui est toujours là lui aussi avec sa mallette de dollars. Et puis il y a Esteban Ocon avec son talent. Alors qu'est-ce que Mercedes en définitive est prêt ou pas prête à faire pour l'aider à accéder? Ben ça on ne sait pas du tout. A priori c'est rien. En tout cas c'est ce qu'on a entendu. Donc ce serait uniquement sur son talent s'il était retenu. Et Claire Williams a dit qu'on cherchait du côté de Williams les moyens financiers puisqu'on sait qu'on perdra l'annonceur Martini qui était un annonceur très important depuis plusieurs saisons. Donc la situation de Williams qui est dernier au classement constructeur est difficile et par voie de conséquence la situation d'Ocon. Je pense que sur le talent et s'il n'y avait pas de contraintes financières, bah c'est Ocon qu'il faut prendre chez Williams, bien sûr.
Adrien ?
Oui, la décision, parce que Claire Williams s'en défend, elle dit qu'elle va prendre son temps, mais en fait la décision de son côté est prise. Si c'était juste le talent, ça serait probablement sûrement Esteban qui serait dans la voiture l'année prochaine. C'est juste qu'on doit attendre probablement des réponses de sponsors et du côté de Robert Kubica. Pareil du côté des Russes de Sirotkin. Et en ce qui concerne Mercedes, effectivement, ils donneront pas plus de soutien que ça à Esteban Ocon. Moi, ce que je retiens par contre, c'est des déclarations assez insistantes. C'est pas la première fois qu'il le dit. Toto Wolff qui dit que Esteban sera dans une voiture compétitive en 2020. Alors je me demande à quel point parce qu'il le dit quand même, il insiste. Donc est-ce qu'il n'y a pas déjà un contrat de signer pour 2020? Je sais pas, mais en tout cas c'est vraiment gage de confiance de la part de Toto Wolff et c'est rassurant pour Esteban pour son futur, même s'il venait à ne pas rouler l'année prochaine.
Alors oui, on peut voir effectivement le verre à moitié plein comme ça, Adrien. se focalisant sur ses déclarations de Toto Wolff là. Néanmoins, si Mercedes ne va pas aider Ocon pour le faire intégrer une équipe dès l'année prochaine, on peut aussi penser que cette équipe est en train de le lâcher.
Non, mais parce que peut-être que justement c'est réglé pour 2020 et que on voit pas vraiment l'intérêt de le donner à une autre équipe pour un an, alors qu'on peut le faire rouler en tant que troisième pilote.
Mais on reste fit pendant un an sans rouler et
oui,
prêt à revenir en Formule 1.
Oui, il va s'entraîner, et puis si s'il est capable de rouler les vendredis, c'est toujours mieux de rouler, c'est clair. Mais après, est-ce que c'est mieux de rouler dans une équipe de second tableau comme Williams? C'est pas sûr.
Tu penses pas?
Non, parce que on peut très bien aussi se mettre un peu la tête à l'envers pendant une saison. Si la Williams ne s'améliore pas l'année prochaine, ça peut être compliqué à gérer pour Esteban. Donc voilà, on peut voir le verre à moitié vide, à moitié plein, mais. Dans tous les cas, je pense que pour Esteban, il faudra voir le positif, quoi qu'il arrive.
Jean-Luc, tu le vois comment le vert, toi ?
Écoute, on en discute souvent avec Adrien. C'est vrai que je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Je comprends très bien son point de vue. Est-ce qu'il vaut mieux pas, pour être clair, être troisième pilote chez Mercedes et attendre une année, se mettre en réserve de la République ? Ben moi, je pense que non, et je vais expliquer pourquoi. Parce qu'il faut rester dans le grand bain, faut rester sous le feu des projecteurs, même si la Williams n'est pas meilleure l'an prochain qu'elle l'est cette année. C'est-à-dire, elle est très mauvaise cette année, soyons clairs. Pour un pilote du calibre d'Esteban, il y aura peut-être une occasion ou une autre de se mettre en évidence. Qui sur une qualif, qui en tout cas de prendre la mesure de son équipier, ce qui devrait pas être quand même trop compliqué puisque c'est le débutant George Russell qui est soutenu également par Mercedes. Ça permettrait également à Esteban de réaffirmer qu'il est devant logiquement George Russell dans les petits papiers de Mercedes. Et puis je me méfie, j'aime bien Toto Wolff hein, pour plein de raisons, mais je me méfie de ce discours bien pensant et politiquement correct en disant non, on pense à lui, on va pas débarquer Bottas avec le boulot qu'il fait. Et je sais qu'Adrien l'a apprécie beaucoup également. Bottas, ok, il a un contrat à l'année, mais en plus, là, je crois qu'il a en Russie, il a largement démontré qu'il était aux ordres, hein, qu'il faisait le boulot. Donc lui aussi, il aura participé au titre d'Hamilton. Moi, je miserais sur le fait d'être sur la grille, j'oserais dire presque par tous les moyens, et Williams, c'est vraiment par tous les moyens.
Adrien ?
Oui, après c'est vraiment savoir où on se place et c'est peut-être juste un peu plus risqué de rouler pour Williams, parce que par contre là où je te rejoins pas Jean-Luc, c'est que Russell c'est du lourd hein, c'est très performant et dans le monde de la Formule 1 ça va pas être facile pour Esteban d'aller beaucoup plus vite que George Russell. Donc mais ça serait très intéressant quelque part pour lui d'être chez Williams, donc bon, quoi qu'il arrive, il faudra prendre le positif et il faudra faire le maximum avec ce qu'il a, voilà.
Bon, de toute façon, ça sera Williams ou rien, et il n'est même pas sûr que le dénouement soit très proche, hein, puisque Williams a tout le temps qu'il veut avant d'annoncer la signature de son nouveau pilote. Ouais, fin de saison, mais ça peut même déborder un peu. On se souvient de l'arrivée de Bottas chez Mercedes, même si c'était dû à la retraite de Rosberg, qui était intervenu assez tard. Donc Esteban Ocon, mine de rien, tout à l'heure, il s'élancera en sixième position parce qu'il a quand même des grands pris à courir avant de se retrouver soit piéton soit chez Williams, et un petit peu derrière lui il y aura un autre Français, messieurs, c'est Romain Grosjean qui décidément aligne les belles performances en qualification depuis un long trou d'air en début de saison. Bah tout va mieux pour Romain Grosjean.
Oui, surtout il prend le pas vraiment sur Kevin Magnussen. C'est faut le souligner parce que Kevin Magnussen est un très bon pilote. Il a dominé, il a bien dominé Romain tout le début de saison, et là depuis quelques grands prix maintenant, même sur un tour en performance pure, Romain arrive à le devancer et pas d'un peu. Donc c'est très positif. Et puis bon, il s'est un peu raté, je pense, dans son dernier tour. Il y avait mieux à faire pour Romain. Il pouvait, je pense, jouer la sixième place d'Esteban en Q3. Mais ça va être aussi une course très intéressante pour lui. Il va attaquer du début à la fin.
Tu as souligné le fait que Grosjean était devant son équipier. Bah lui aussi s'en est aperçu et il a pas oublié de le dire à Lucas Vinoy.
Je suis satisfait parce qu'on voit que Kevin arrive pas en Q3. La voiture est peut-être pas la meilleure des autres aujourd'hui. Maintenant, demain est une autre histoire. Il va faire beaucoup plus chaud. Donc je pense qu'on s'est un peu plus concentré sur le réglage course, sur le réglage qualif. Maintenant, le dernier virage m'a un peu posé des soucis en qualif. Je pense que je perds deux petits dixièmes là-bas, donc ça nous coûte cher sur la grille. Après, la bagarre du milieu de peloton est extrêmement excitante, puisqu'en deux, trois dixièmes, vous trouvez pas mal de voitures.
Jean-Luc, non seulement c'est une belle performance, mais en plus c'est une performance qui tombe bien, parce que c'est un grand prix particulier pour lui, pour son écurie, les États-Unis.
Et ben voilà, faut surtout pas oublier de rappeler naturellement que l'équipe A, c'est la seule équipe américaine. Alors, elle est perçue peut-être pas complètement, elle est présente aussi, on le sait, en NASCAR. J'allais dire, elle est pas perçue comme officiellement l'écurie porte-drapeau des États-Unis là-bas. Hein. Il faut pas exagérer non plus. D'autant qu'elle a des pilotes de nationalités différentes. Ah, il y aura un pilote américain, il y aura Alexander Rossi. Par exemple, ce serait peut-être différent. Maintenant, Romain a fait un super boulot. Là, il faut bien reconnaître qu'il y a eu ce déclic et qu'en deuxième partie de saison, comme le soulignait Adrien, et il est devant son équipier Magnussen, qui est pas n'importe qui. Hein. Magnussen qui est un peu en vrac en ce moment aussi, puisque, tiens, parenthèse, petite précision, et vous l'avez vu aussi, bien sûr, la FIA a finalement, bah nous on l'avait vu tout de suite, hein, je suis désolé de le rappeler, mais a finalement décidé qu'au Japon, le coup de volant un peu catastrophe au dernier moment pour barrer la route à Charles Leclerc, bah c'était pas autorisé. C'est bien ce que Charles, très gentiment d'ailleurs, mais disait depuis le début, donc on a remis les choses au point, donc Magnussen va falloir qu'il se calme un peu, et surtout,
depuis le temps qu'on le dit, depuis le temps qu'on le dit qu'il faut qu'il se calme.
Bah oui, oui. Puis là, ce coup de volant, enfin, c'était évident qu'il a contre-réagi à la tentative d'attaque de Charles, qui arrivait avec le DRS ouvert, donc qui arrivait avec sûrement 15 ou 20 bornes de mieux. C'est extrêmement dangereux à 300 km/h. Hein. Si jamais les roues s'engrènent mal, on sait comment ça se termine. Donc c'est une manœuvre très dangereuse et Charles a très bien fait, sans l'ouvrir vraiment spectaculairement, mais il a demandé à Charlie Whiting au briefing des pilotes vendredi de mettre les choses au point et elles ont été mises et dans son sens. Donc ça, même j'allais dire au plan du statut mental et moral de Charles qui arrive chez Ferrari, bah c'est un point très important par rapport à ses pairs.
D'ailleurs, vous avez vu ce qui s'est passé au briefing des pilotes cette semaine, c'est absolument incroyable. Donc Charlie Whiting et l'ensemble des pilotes et des patrons d'équipe vont s'installer dans la salle du briefing qui en fait est la salle de conférence de presse qui jouxte vraiment la grande salle de presse où sont installés tous les journalistes que compte ce monde. Et puis les micros étaient allumés. C'est ballot, hein.
Aïe, aïe.
Donc le briefing a été diffusé alors que c'est censé rester strictement confidentiel. Toute une partie du briefing des pilotes a été diffusée en direct dans la salle de conférence de presse. Vous doutez bien qu'aucun journaliste a eu l'obséquiosité d'aller dire attendez, les micros sont allumés, on entend tout. Donc les journalistes s'en sont délectés et effectivement l'explication de Charlie Whiting après l'incident entre Leclerc et Magnussen a été rendue publique. Donc voilà. D'accord. Erreur de débutant des techniciens de la FIA. Il n'empêche quand même, pour revenir sur Romain Grosjean, Adrien, est-ce que après une belle deuxième partie de saison comme le Français vient de la signer, on peut capitaliser là-dessus pour l'an prochain ou est-ce que les cartes sont complètement rebattues avec les nouvelles voitures et les quelques petites modifications de règlement?
Ah, bien sûr qu'on capitalise là-dessus, mais d'un point de vue personnel, pour Romain, on sait que c'est un peu parfois les montagnes russes. Il y a des moments où il est très facilement dans une spirale négative et des moments où par contre il est vraiment très performant et comme il l'est là depuis la moitié de la saison. Donc c'est sûr que de finir une saison de cette manière-là, c'est parfait. Et on sait souvent hein, en Formule 1, on se souvient de la fin de la saison, pas du début. Donc pour Romain, c'est parfait. On sait que l'hiver est long et peu importe de toute façon les caractéristiques de sa voiture de l'année prochaine et les performances de sa voiture de l'année prochaine. Lui, il faut qu'il se soucie de sa performance personnelle et c'est parfait de finir la saison comme ça.
Ocon 6e, Grosjean 8e et Charles Leclerc 9e, auteur encore hier d'une magnifique séance de qualification. Alors, on va pas être trop méchant avec Marcus Ericsson, on va pas comparer les performances des deux sauveurs parce que il a vraiment à pâlir le Suédois de la comparaison. On va juste se concentrer sur Charles Leclerc, Jean-Luc, qui confirme vraiment grand prix après grand prix, calife après calife, son statut d'étoile montante du paddock, il n'y a pas d'autre mot.
Ah, il n'y a pas d'autre mot, effectivement, et tu as raison, on ne va pas comparer, ce serait tout à fait désobligeant pour son équipier. Je pense que Charles, il démontre aussi qu'il a la tête vraiment solide, parce que ça pourrait lui monter à la tête, hein, quand on a son âge et qu'on se retrouve
avec le statut. Ferrari, quand même.
Tu te rends compte, c'est le rêve de tout pilote qui se respecte. Hein. Tiens, il va rosir, demande à Adrien s'il aurait pas envie d'être pilote Ferrari ou n'importe quel pilote dans monde entier.
il est rose.
Non, mais c'est le pinacle, c'est quelque chose d'incroyable. Et je crois qu'il démontre donc que sa tête est bien faite également, qu'elle est solide. Alors le talent, il l'a là aussi, même avec une modeste sauveur. C'est pour ça que je me permets de dire que de toute façon, rouler c'est important et démontrer à tout le monde qu'on a le talent pour aller plus haut. Alors bon, lui, les bonnes fées se sont penchées évidemment sur sur son berceau. J'allais oser dire, et je sais qu'Adrien l'adore et le connaît très très bien. Et je vais rappeler évidemment que c'est à Jules Bianchi que Charles doit beaucoup, que c'est à Philippe Bianchi qu'il doit beaucoup, et Nicolas Tote, son manager, qui a su le mettre là où il fallait, quand il fallait. En tout cas, moi, je suis ravi et déjà très excité pour la saison 2019 de voir Charles Leclerc chez Ferrari.
Ravi, c'est le mot qui convient. Charles Leclerc, hier au micro de Lucas Vinoy à l'issue de la qualification.
Très content avec la Q3. C'est vrai que c'est un peu dommage quand on regarde la Q2 parce qu'on était 6. Mais bon, je pense que les autres cachaient un petit peu leur jeu. Ils ont tout mis ensemble en Q3. Nous, on avait déjà tout mis ensemble en Q2 et il y avait pas grand-chose à extraire en plus pour la Q3. Donc très content qu'on ait fait notre max et qu'on ait réussi à tirer le max de la voiture.
Adrien, un mot rapide sur Pierre Gasly. C'est un week-end beaucoup plus compliqué pour lui. 19e, pénalisé pour avoir changé des composants de son moteur. Donc c'est pas ce week-end qu'il ira chercher des points.
Oui, mais malheureusement, parce que Pierre est très performant depuis le début du week-end. On a même vu une deuxième place sur le mouillé en essai libre, et en Q1 il était très très performant. On parle de timing, on parle de grinta, de Charles Leclerc. Ben c'est pareil pour Pierre Gasly, hein. On en a deux francophones l'année prochaine qui seront dans des top teams, Ferrari et Red Bull. C'est parfait pour les deux, et ça va être une saison très 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 excitante.
Ça, on en salive d'avance, hein, Jean-Luc. Ouais.
Ah ben oui, écoute, franchement là, y a déjà les cartes qui sont rebattues, et dans le bon sens, comme on le rappelle à chaque fois, ces deux-là vont se retrouver dans des supers équipes, en tout cas en mesure de pouvoir gagner des grands prix. C'est une évidence, et il faut peser nos mots. On aura des Français francophones.
Ouais, comme très longtemps qu'on en a pas eu, hein.
Exactement, en mesure de s'imposer. Alors faudra pas les attendre sur le premier, les deux premiers, les trois premiers grands prix, allez, j'en sais rien, encore que on ne sait jamais.
Qui sait.
Mais sur la saison, ils auront la capacité, en tout cas mécanique. Puis tiens, vous voulez que j'émette un vœu supplémentaire, peut-être.
Oui.
Adrien me voit venir. Et si on recrutait Fred Vasseur chez Ferrari, et ce serait pas formidable, ça, d'avoir un type du calibre de Fred qui sait manager une équipe d'abord, qui a gagné partout, qui est en train de faire de Sauber ce qu'elle est en train de devenir. Il y a un problème de management chez Ferrari, c'est une évidence, et j'ose le dire, on l'a souligné tout à l'heure, mais recruter Vasseur, non un chien avec Leclerc, et là on va avoir un spectacle extraordinaire.
C'est vrai. Et puis en plus, écouter Fred Vasseur parler italien, ça, je pense qu'on pourrait potentiellement ne pas s'en lasser pendant des mois et des mois. Pensez à la saison 2001 quand même. Si jamais on avait Leclerc chez Ferrari, Gasly chez Red Bull et Ocon chez Mercedes, ça aurait de la gueule quand même.
Ouais. Oui, c'est clair, mais ça fait une éternité, hein. On nous demande souvent, mais quand est-ce qu'un pilote français va gagner un grand prix? Ben, il faut qu'ils aient l'opportunité de le faire. Il faut avoir une bonne voiture, et là, ben voilà, au moins un francophone, parce qu'il est pas français, Charles, mais le monégasque aura une Ferrari capable, on l'espère, de gagner des grands prix dès le début de la saison. Et pour Pierre, pareil, hein, si le Honda fonctionne bien avec la Red Bull, ouais, ça va être une voiture très performante.
On rappelle, hein, la dernière victoire d'un français en F1, c'était au siècle dernier, 1996. On était tout petit, Adrien, tout petit. Olivier Bagé.
Je l'ai commenté en direct.
Oui, voilà, c'est ça. Je n'ai pas eu l'impression.
Parti 14e sur la grille. Oui.
13h42 sur RMC. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on évoque le titre de Marc Marquez en MotoGP. L'Espagnol a remporté ce matin le Grand Prix du Japon. L'ancien pilote Jean-Claude Orgel sera notre invité. Orgel, pardon. À tout de suite dans Motors.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
Avec Jean Lecroix et Adrien Tambay, on est ensemble en direct jusqu'à 14h. Vous retrouverez ensuite Christophe Sessieux pour l'Intégral Sport. Autre rendez-vous ce soir, 20h10, le Grand Prix des États-Unis en direct sur RMC. Mais il n'y a pas que la F1 dans la vie.
RMC Motors.
World Champion! Oh my God! I can't believe it! Thank you so much, guys!
Radio Paddock.
Il y a aussi la moto. Salut Benoît Boutron.
Salut Louis, salut Jean-Luc, salut à tous.
Dans un instant, nous serons avec Jean-Claude Augrel, ancien pilote, pour évoquer le titre de Marc Marquez, un cinquième titre conquis, Benoît, ce matin au Japon.
Ça y est, c'est réglé, effectivement. Il est allé chercher le titre comme un grand. D'ailleurs, pour la petite anecdote, vous le savez, hein, c'est le 7e titre si on compte toutes les catégories pour Marc Marquez. Et c'est la 3e fois qu'il va chercher un titre de champion du monde au Japon. Donc, il aime bien ce circuit. Et surtout, rappelons que le Japon, c'est quand même le pays de sa marque Honda, donc évidemment les propriétaires de Honda étaient très contents. Il est parti 6e sur la grille. À la fin du premier tour, il était 2e derrière Dovizioso, et il a encore fait un grand prix magnifique. Marc Marquez, Dovizioso qui a ensuite chuté. On a une petite déception pour Juan Zarco, on pourra en parler, il a un peu manqué son départ, du coup il termine à la 6e place. Mais Marquez, juste quelques chiffres, il a 25 ans, Marc Marquez, c'est effectivement son 5e titre dans la catégorie reine, sa 42e victoire en MotoGP. Il revient à 2 titres de Valentino Rossi, à 3 titres de Giacomo Agostini. Mais comme on le disait, il a 25 ans, Jean-Luc, lui il peut vraiment battre tous les records, hein.
Ah oui, écoute, c'est absolument incroyable. Bon, là aussi, on enfonce des portes ouvertes. On le sait, il a tous les talents et il est arrivé à ce cinquième titre un an plus tôt que Valentino Rossi. Et tu l'as dit, il est sur les traces. Bah devant lui, il y a plus, en gros, il y a plus que Rossi et Agostini hein, en termes de nombre de titres. Il a égalé également Mike Haywood, mais avec un an d'avance par rapport Mike Haywood. C'est vraiment la légende de la moto. Et il est au même niveau que Mick Doohan également avec le nombre de 5 victoires dans la catégorie majeure puisqu'à l'époque c'était les 500 hein, on s'en souvient. Non c'est un champion exceptionnel et puis il a la manière en plus parce que là il s'est battu, il a été la chercher par une victoire et c'est Dovizioso qui a craqué à 2 tours de l'arrivée qui a chuté son pneu avant l'a lâché. Voilà.
Et pour en parler on accueille notre invité l'ancien pilote moto Jean-Claude Augrel. Bonjour Jean-Claude, merci d'être avec nous.
Bonjour, je suis ravi. Juste un petit mot, on a quand même une victoire française aujourd'hui, quand même, la Marseillaise au Japon, c'est quand même pas si souvent.
Bah oui, mais malheureusement,
et oui, mais non.
Voilà,
alors je suis au courant. Bon, on a écouté la Marseillaise et puis on nous l'a enlevé tout de suite.
Voilà,
alors,
c'est
oui,
ça.
Oui, déclassement pour une pression des pneus trop basse.
Voilà,
mais ça prouve quand même que le pilote est bon et que c'est vraisemblablement un pilote français d'avenir.
Le pilote, c'est Quartararo. Hein,
évidemment, Quartararo en Moto2, c'est dommage, ça aurait pu être sa deuxième victoire dans cette catégorie et c'était vraiment un super grand prix puisqu'il est parti sur la première ligne, il était deuxième, un mano à mano fantastique et finalement il a pris le lead et sans jamais se faire dépasser, donc c'était une belle victoire pour Quartararo. Effectivement il y a cette problème de pression au niveau des pneus mais c'est quand même un week-end référence pour lui et il pourra s'en servir pour la suite de sa carrière évidemment.
Jean-Claude Augrel, vous validez?
Ah oui, complètement. Bah bien sûr. En plus, sincèrement, 200 grammes de plus dans le pneu arrière n'aurait rien changé au résultat. Donc, bien sûr, c'est ce qu'il a fait est super. C'est la deuxième fois cette année. Bravo, félicitations. Alors après, MotoGP pour lui l'année prochaine, mais bon là, ça va être autre chose. Surtout avec Morbidelli qui est quand même un concurrent coriace dans la même écurie. On va voir. Bon, maintenant, effectivement, Marquez.
Oui. Salut Jean-Claude. Ben merci d'être là. C'est toujours un plaisir de t'entendre et de parler. On a quelques souvenirs à moto ensemble. On va pas commencer à remonter au siècle dernier. Écoute, oui. Tout d'abord, effectivement, on va rebondir. Tiens, peut-être sur cette histoire de pression. C'est vrai que c'est un peu la rançon à payer entre guillemets pour les manufacturiers uniques. Toi, tu as connu évidemment les batailles de manufacturiers en Grand Prix. Et là, c'est vrai qu'on a tellement peur de rencontrer un problème de crevaison ou d'éclatement qu'on impose donc des pressions minimales. Et c'est pour ça que Quartararo est frappé. C'est un peu dur, on va dire quand même, de lui retirer la victoire pour ça, non ?
Ah, complètement. D'autant plus que sincèrement, ça change pas le résultat. Ça va. Il y a 100 grammes d'écart entre lui et ses concurrents ou 200 grammes. Là encore, en l'occurrence, j'ai pas encore le résultat officiel, mais peut-être même pas. Bien sûr, c'est très dur. Mais l'histoire retiendra que quand même, Quartararo a fini devant Bagnaia au Japon. C'est quand même. L'histoire retiendra ça. Et puis à la limite, après, j'ai tendance à dire, de toute manière, c'est pas très grave qu'on lui enlève ses 25 points parce qu'il n'était pas en lutte pour le titre. Ça aurait été très grave si effectivement il était en bagarre pour le titre. Là, c'est pas le cas. Donc juste, on retiendra que effectivement, Quartararo a été très vite. C'est la deuxième fois cette année qu'il est devant, avec notamment des remontées. C'était très bien quand même.
Ah oui, c'était très bien. Et puis on le retrouvera en MotoGP, tu le disais, avec une équipe satellite Yamaha, ça peut faire mal. Alors on en vient évidemment au titre qu'évoquaient Benoît et Louis il y a un instant, c'est le titre de Marc Marquez. On peut dire qu'il n'a pas déçu, parce que ce qu'il y a de formidable avec Marquez, c'est qu'il a du panache, hein. C'est vraiment pas l'économie.
Ah ben c'est le mot est faible. Honnêtement, il était champion du monde avant le départ, dans le sens où de toute manière il y avait tellement de points à rattraper pour son concurrent parce qu'il n'y en avait plus qu'un, que c'était infaisable parce qu'il restait encore 3 grands prix, quatre grands prix pardon, voilà, il a du panache. En fait, Marquez, moi j'ai regardé tous les grands prix de la saison, il se trouve je continue à rouler pour le plaisir maintenant évidemment. À mon grand âge, je fais plus de courses, mais je continue à rouler pour le plaisir avec des motos très performantes. Et en fait, je vois ce que fait Marquez, il voit les choses au ralenti. C'est-à-dire qu'il a le temps de tout, lui. Quand ça glisse de l'avant, c'est pas grave. Quand ça glisse de l'arrière, c'est pas grave. Et là, clairement, il n'était pas question que Dovizioso gagne. Alors qu'il aurait fini deuxième, c'était très bien, mais il n'était pas question. Il a un panache énorme, il voit les choses au ralenti. En plus, c'est un être... Moi, je suis pas fan de Marquez. Hein. Je pas plus que les autres pilotes. Mais il a un panache énorme. Il est d'une gentillesse, il est souriant. Il est toujours prêt à faire des photos avec ses enfants autour de lui. Il apporte quelque chose à la moto.
Ah oui, c'est clair, c'est un ambassadeur absolument magnifique, formidable, enthousiaste. Tiens, on sait qu'il a, il a testé une Formule 1. On peut quand même se poser des questions aussi sur l'avenir. On sait que ça avait été le cas de Rossi il y a quelques années. En tout cas, pour le moment, je vais en revenir à la cohabitation chez Honda avec, tu me vois venir, Jean-Claude, avec un homme rugueux, c'est le moins qu'on puisse dire dans tous les sens du terme, Jorge Lorenzo, qui a été en conflit évidemment avec Rossi chez Yamaha, qui a été plus ou moins en conflit parce que bon, Dovizioso est un garçon plutôt sympa, mais a pas été dans très bonne relation chez Ducati avec son équipier. Et il arrive chez Marquez, on peut dire, chez Honda. Ça va être une saison et un bras de fer formidable, non?
Alors moi j'ai hâte, hein. Franchement j'ai hâte, parce que le personnage de Lorenzo, je suis pas fan, hein. Il traverse le paddock avec ses écouteurs sur les oreilles, la tête baissée, ses lunettes, sa casquette, il regarde personne. Marquez, Rossi font des photos avec tout le monde, ils sont souriants, ils sont agréables. Lorenzo c'est vraiment c'est l'antithèse de tout ça, quoi. Je suis pas fan de l'homme. Par contre, le pilote, pour aller voir des grands prix régulièrement toute l'année, vous regardez Lorenzo pendant 20 tours. Pendant 20 tours, il passe au millimètre près sur la même trajectoire. Il est d'une propreté exemplaire. Il va très vite. Ça va être très intéressant. Aujourd'hui, je pense que quand même Marquez met la barre tellement haut, il est capable de se surpasser. Je ne sais pas si Lorenzo est capable de ça. Il est capable d'aller très très vite. Je ne sais pas s'il est capable de surpasser comme peut le faire Marquez quand il faut en redonner un coup.
Oui, et puis comme tu le disais, en plus il a modifié son style de pilotage, il a un style très pur, Jorge Lorenzo, tous les pilotes, et tu le confirmes évidemment, l'apprécient, mais Marquez, est-ce qu'il a pas un truc de plus? Moi, même la manière dont il teste la limite, notamment de son pneu avant, lors des essais, quitte à chuter d'ailleurs, il chute souvent, mais sans gravité, ça démontre que vraiment il ne laisse, comme tu le disais, rien au hasard.
Ah bah Marquez, 50 chutes hein, en un an, ouais. 50 chutes en un an, il est champion du monde, en plus il est en caoutchouc. Tout le monde se souvient de l'image où il tombe. Là, il a même pas fini de rouler, qu'il est déjà en train de courir pour remonter sur le scooter pour aller récupérer une autre moto. Il est en caoutchouc et encore une fois, moi je pense sincèrement que ce type voit les choses au ralenti. Il a le temps de tout, c'est-à-dire que ou vous êtes complètement débordé, ou moi je suis complètement débordé, ou ça va trop vite pour moi, ou mince j'ai pris le frein trop tard. Et ben lui, il a le temps. Il a le temps. Et comme il a le temps, ben finalement tout se passe toujours très bien.
Merci beaucoup Jean-Claude Ogrel d'avoir été en direct l'invité de Motors.
Avec plaisir.
Et à très vite.
Avec plaisir.
Jean-Claude, évidemment.
À bientôt. Merci à vous. Ciao. Au revoir.
Benoît Boutron, on enchaîne Radio Paddock avec le WRC et des infos transfert importantes.
Alors là, on va avoir une sacrée bataille, hein, Jean-Luc, l'année prochaine en WRC. On sait qu'à Citroën, on va retrouver un Français, Sébastien Ogier, le quintuple champion du monde, qui a donc retrouvé l'écurie dans laquelle il était au début de sa carrière. Il sera avec un nouvel équipier, Esa-Pekka Lappi, qui est quatrième en ce moment au championnat du monde. Et surtout, il y aura une forte concurrence puisqu'à Toyota, on aura un trio magique, Ott Tanak, Chris Mick et Jari Matti Latvala, et à Hyundai, Thierry Neuville et Andreas Mikkelsen. Ça va être fantastique cette saison de WRC en 2019, Jean-Luc. Hein.
Oui, ça va être super. Bah écoute, c'est le jeu là aussi des chaises musicales, à part chez Hyundai où on a conservé ses pilotes. Alors Chris Meek, on l'avait viré, il n'y a pas d'autre mot, oui. On l'avait mis comme un malpropre, hein, de chez Citroën, peut-être pour préparer effectivement l'avenir. On l'a compris maintenant, puisqu'on avait quand même dans la tête à ce moment-là de recruter le meilleur rallyman actuel. Moi j'ose le dire, c'est évidemment Ogier avec Julien Ingrassia. Donc du coup, Chris Meek, il va se reconvertir à 39 ans chez Toyota. Bah c'est pas un mauvais choix du constructeur japonais, d'autant qu'il va retrouver Tanak, l'homme en forme de ce moment, et Latvala qui se cherche toujours un peu. Latvala, on craint que finalement il ne confirme pas tout le talent qu'il a, en tout cas au niveau d'un titre de champion du monde, mais il va avoir fort à faire, parce que Mick, je ne sais pas s'il va rouler longtemps sur la Toyota, mais il va rouler très vite, ça c'est sûr.
Adrien, ça fait un super plateau quand même.
Ouais, c'est génial. Et puis l'implication de Citroën est décuplée, je pense, l'année prochaine. On a sûrement cassé un peu la tirelire pour avoir Ogier dans l'équipe. Et c'est bien. On le voulait ce retour du Français dans l'écurie française. Alors est-ce qu'il y a un lien d'ailleurs avec le retrait de Peugeot en rallycross? Peut-être qu'on peut se poser des questions là-dessus. On va voir ce que Peugeot fait dans l'avenir.
Un mot juste rapidement, Benoît, le prochain rallye.
Évidemment, puisque c'est plus serré que jamais. Il reste deux rallyes et il y en aura un dès la semaine prochaine en Catalogne. On rappelle jusqu'au classement, pour l'instant c'est Neuville qui est en tête avec seulement 7 points d'avance sur Ogier, donc ça va être chaud jusqu'au bout.
Parfait, merci Benoît, merci Adrien Tambay, merci Jean-Luc Roy. On vous retrouve évidemment tout au long de l'après-midi et ce soir 20h10 pour le Grand Prix des États-Unis, 13h56. Ainsi s'achève Motors.